Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La nativité de notre Seigneur Jésus-Christ est pleine de clair-obscur, comme le soulignent les Pères de l'Église. Il vient illuminer le monde et beaucoup demeurent aveugles. Les plus humbles le reconnaissent, les bergers, et ceux qui auraient dû l'accueillir l'ignorent, les habitants de Bethléem. Les habitants, les autorités de Jérusalem n'apprennent pas sa naissance et ne viennent pas l'adorer. Des étrangers, qui ne sont pas du peuple élu, les mages, font le voyage et viennent l'adorer. Les disciples, plus tard, des humbles pécheurs, le suivent aveuglément, font l'Église, et les autorités religieuses qui avaient la formation, toutes les connaissances pour l'accueillir, en faire leur roi, le rejettent, le mettent à mort. Et cela se continue aujourd'hui, malgré l'avalanche de sainteté qui s'est épanouie dans la chrétienté, malgré le nombre de miracles qui se sont réalisés dans le monde entier pendant des siècles, le monde vit dans l'ignorance complète, pratiquement complète, de notre Seigneur Jésus-Christ dans la vie publique. C'est un peu une image aussi, cet épisode du voyage des mages, de leur adoration dans l'humble maison de Bethléem. C'est l'image de la vie spirituelle qui est à la fois lumière dans notre âme et qui demeure pourtant mystérieuse, ténèbre. Et nous allons essayer ce matin de revoir cette histoire, cet événement, comme une parabole de la vie spirituelle. Et d'abord, avant de naître, au moins pour ceux qui se convertissent à l'âge adulte, ou au moins pour ceux qui, étant baptisés, ne rentrent vraiment dans la vie spirituelle qu'à l'âge adulte. Avant de naître, l'âme prédestinée à cette vie intérieure est préparée de loin par certaines connaissances, par des entretiens, par des réflexions, par des lectures, par des événements qui la touchent, sans encore que la pleine lumière rentre dans son âme, sans qu'elle connaisse vraiment ce qui l'attire. Ainsi, les mages sont d'abord attirés par la science, par les astres. Ils recherchent à connaître le monde, à connaître le cosmos. Ils recherchent la sagesse et ils y trouvent déjà une certaine empreinte de Dieu qui éveille leur intérêt et qui réchauffe déjà leur cœur. Puis, dans la vie intérieure, Dieu donne aux âmes un jour une lumière plus vive, agit sur la volonté pour mouvoir l'âme à s'engager plus profondément, à s'engager dans une voie nouvelle. Et alors, ce qu'elle a lu, ce qu'elle a entendu, ce qu'elle a éprouvé, lui revient à l'esprit et elle comprend les desseins de Dieu. De même, quand les mages découvrent cet astre inhabituel qui n'est pas une étoile habituelle du cosmos qui se déplace d'un mouvement régulier, mais qui se déplace ici d'un mouvement irrégulier, sans doute une comète. Quand les mages voient cette étoile, ils comprennent ce qu'elle annonce. La prophétie de Balaam, peut-être, dont ils avaient eu connaissance, leur paraît maintenant claire. Ils comprennent, c'est le signe du grand roi. Ils quittent leur pays sans délibérer. Ainsi disent-ils à Hérode plus tard, « Nous avons vu l'étoile et nous sommes venus. » Ils entreprennent l'œuvre pénible, ce long voyage, pour rencontrer ce grand roi. Quand l'âme se convertit à la vie intérieure, l'attirance de Dieu, à un moment, est telle qu'elle n'est plus arrêtée par aucun attachement humain, par aucune considération, par aucune difficulté. Son cœur lui dit qu'elle trouvera auprès de Dieu infiniment plus que ce qu'elle quitte pour lui. Elle cesse alors de se conduire selon les inspirations des sentiments, des impressions, qui sont non pas des étoiles mais des feux follets. Et elle suit maintenant une étoile brillante, claire, bien que toujours mystérieuse, qui lui montre une direction permanente, une direction précise. C'est la naissance de la vie spirituelle, de la vie intérieure. Puis vient l'épreuve de la nuit. L'étoile disparaît. Les mages en sont réduits à se tourner vers les moyens ordinaires de renseignement. Ils s'adressent aux autorités en place en Judée. Ceux que Dieu a posés sur le chandelier, ce sont des lampes, ce ne sont pas des astres ni des étoiles, mais ils participent seulement à la lumière. Alors les mages se tournent et ils viennent demander où est le roi. Remarquez qu'ils ne doutent pas. Ils ne posent pas la question, n'y a-t-il pas un roi qui est né ? Où est le roi qui est né ? Dieu se cache aussi dans la vie intérieure, la lumière éclatante, fulgurante peut-être des premiers moments, disparaît insensiblement, les sentiments doux pour Dieu, les témoignages de sa tendresse deviennent plus rares, semble-t-il, les combats grandissent dans l'aridité. Et alors le guide devient, beaucoup plus que ses impressions, la doctrine de l'Église, et puis surtout la direction spirituelle, l'aide d'une autre âme, d'une âme avec les grâces d'État qui dirige pour traverser cette nuit. Lorsque les mages posent cette question à Jérusalem, toute la ville se trouble. Hérode dissimule sa crainte et cache ses desseins criminels sous le voile de la religion. Je viendrai moi aussi l'adorer, mais il ne se déplace pas. De même, dans l'acheminement vers Dieu, l'approfondissement, l'enracinement de cette vie intérieure dans l'épreuve, et très souvent des persécutions ou des épreuves venant des hommes se lèvent, des embûches dressées contre la vie spirituelle venant des hommes ou bien des démons, puisque pour Saint Léon, Hérode est la figure du démon. Ces persécutions, ces obstacles prennent la forme de prévention, d'envie, de mépris ou d'humiliation qui essaient d'écarter l'âme de cette voie. Et parfois, même souvent, ces obstacles qui se dressent, ou ceux qui dressent des obstacles, le font avec la meilleure d'intention. Ne comprenant pas ce qui se passe, ils essaient de ramener ce qu'ils pensent déraisonnable à quelque chose de plus ordinaire, de plus raisonnable. Alors, il faut tenir bon, appuyer sur la grâce invisible et non sur le sentiment. Puis revient la pleine lumière. L'étoile apparaît de nouveau aux mages, et en revoyant l'étoile, ils furent transportés d'une joie extrême. Après l'épreuve, qui peut être longue, après cette purification de la foi, de l'espérance et de la charité, Dieu dissipe les ténèbres et donne de lumière pénétrante, beaucoup plus profonde, beaucoup plus spirituelle. L'âme éprouve cette joie profonde de retrouver Dieu après cette longue absence, après cette impression persistante de l'avoir perdu, d'en être séparé, d'en être rejeté éventuellement même. Et lorsque les mages entrent dans cette maison sur laquelle s'est arrêtée l'étoile, ils trouvent la mère et l'enfant, et malgré la pauvreté de cette famille, ils n'ont aucun doute, ils se prosternent, ils offrent leur présent, l'or, l'encens et la myrrhe. Ils sont éclairés par la lumière, non plus seulement par la lumière de l'étoile, mais par la lumière de la foi profonde, qui leur fait voir par-delà les apparences, leur fait voir la réalité. C'est déjà la sagesse qui est développée. Ainsi, après cette épreuve de la nuit, 16 épreuves de la nuit des sens, puis la nuit de l'esprit, la foi devient extrêmement vive et séparée du sensible. Et l'union avec l'époux devient inexprimable, inexprimablement étroite. L'âme se trouve largement dédommagée de tout ce qu'elle a souffert, de ce qu'elle souffre encore. Elle expérimente intimement que l'on gagne tout en perdant tout pour Dieu. Et elle offre à son bien-aimé l'or pur de la charité, l'enfant de son oraison toute d'amour et la mire de son renoncement, du renoncement pleinement assumé, pleinement assuré aussi à la vie trop sensible, trop naturelle ou à l'activité des sens et des puissances du sens, des puissances sensibles. Après avoir adoré notre Seigneur, après lui avoir témoigné leur soumission, ils repartent, dit l'Évangile, par un autre chemin. Et sans doute qu'ils publièrent leur découverte partout là où ils passèrent, dans toutes les populations et dans leur pays. Et de même, dans cet état d'union parfaite, l'âme intérieure qui, dans ce premier mouvement de conversion, et s'était séparée du monde, avait fait cet effort de se séparer du monde pour mieux trouver Dieu, l'âme maintenant parfaitement purifiée revient vers les hommes, mais selon un autre chemin. Cet autre chemin, c'est que maintenant elle porte Dieu aux hommes d'une façon absolument désintéressée et pure, sans aucun dommage, sans aucune contagion des hommes qui nuisent à son âme. Son union à Dieu demeure intacte, son recueillement, sa paix ne sont plus atteintes par ce commerce avec les hommes. Et c'est là qu'on voit dans la vie des saints cette influence profonde, difficilement explicable sur les âmes dans cet état de perfection. On le voit chez les saints, même chez les âmes bien avancées, quel que soit leur état de vie. Par exemple, donc ces âmes rayonnent, on le voyait chez Mgr Lefèvre par exemple, ou chez des âmes très retirées comme la bienheureuse Élisabeth de la Trinité. Elles avaient un rayonnement lointain sur beaucoup de personnes parce que ces âmes deviennent transparentes à Dieu. Dieu se sert d'elles sans aucun obstacle et puis parce que la sagesse les a pénétrées. Donc le peu qu'elles disent, le peu qu'elles font répand la sagesse de Dieu autour d'elles. Eh bien, que les rois mages nous apprennent à chercher Dieu avec cette dévotion, avec cette persévérance, avec ce désir des rois mages. Ils cherchaient la lumière. Et Guéric, un moine cistercien, je crois, distinguait trois sortes de lumières que nous pouvons chercher. La première lumière, c'est la foi. Les mages brillent par cette foi extraordinaire, une foi qui était attentive, ils scrutaient le ciel, une foi active parce qu'ils ne se contentent pas de croire, mais ils vont, ils quittent leur pays, une foi ferme qui ne leur permet pas de douter malgré l'ignorance des autorités de la Judée, et une foi courageuse qui confesse sans respect humain. La deuxième lumière, c'est quand la lumière de la foi pénètre nos œuvres, régit nos œuvres, et cette deuxième lumière, c'est donc la justice. Et puis la troisième lumière, le fruit de la foi et de la justice, c'est la sagesse. Sagesse qui nous fait voir et goûter tout selon Dieu, selon la lumière divine. Eh bien, demandons cette recherche de la lumière, demandons ces trois lumières pour nous-mêmes et pour toutes les âmes qui cherchent Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.